notre nom pour venir ici. Amen. Et que Dieu va faire quelque chose de merveilleux dans votre cœur ce matin. Ouh! Et une attention particulière, un accueil particulier à Anaëlle, qui est là avec nous ce matin, et qui s'est fait baptiser la semaine passée, hein, Anaëlle? Yeah! Gloire à Dieu! On a prié pour toi, Anaëlle. On aimerait bien entendre ton témoignage éventuellement, mais je ne veux pas te mettre mal à l'aise ce matin. Alors, ce matin, on poursuit dans nos, dans nos réflexions, dans notre série sur la famille de Dieu, l'Église, la famille de Dieu. Et voici notre verset thème, hein, on va le dire ensemble. Ainsi, on n'a pas changé, excusez la source, ça s'en vient. Et voilà, on va changer le... C'est avec ça ici? Avec l'ordi? Puis, excuse-moi, là, Laurent, je pense que je vais juste tasser le projecteur un petit peu. La résolution est plus haut. Ouais, c'est ça. Bon. En tout cas, en attendant que l'audiovisuel nous rattrape, je passe aux aveux ce matin. Je passe aux aveux ce matin. Je n'y arriverai pas. Je ne suis pas capable. Je ne réussirai pas. J'ai besoin de vous. En fait, j'ai besoin de chacun de vous. Et je suis sérieux. Vous voulez savoir pourquoi? Je vais vous le dire, mais pas tout de suite. Tantôt. À mesure que le message avance, vous allez découvrir pourquoi le Seigneur a mis à cœur de passer aux aveux ce matin. Mais pour la première partie, on va réviser ce qu'on a vu à date. À date, on a vu dans la première section que l'Église, c'est la famille de Dieu. Et c'est que Dieu est le fondement. Sans Dieu, il n'y a pas de famille. Il faut être en relation avec le Père pour faire partie de sa famille, pas vrai? Et cette relation-là nous est possible à cause de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le fondement que Dieu a posé dans l'Église. Le Père et le Fils ensemble, dans cette aventure, cette belle aventure de créer une famille. Ensuite, on est dans la deuxième section qui traite de les relations. Comment on se comporte dans cette famille-là? Comment on va être en relation? Comment vivent les relations dans la famille de Dieu? Qu'est-ce que Dieu en dit? Est-ce qu'il y a un mot à dire là-dessus? Est-ce que Dieu a un mot à dire de comment est-ce que ça devrait se passer dans sa famille? Hein? Oui. Puis le premier point qu'on a vu, c'était l'accueil. 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 C'est loin, là. Hein? Ouh, c'est loin. Puis pour cette deuxième section, ce qu'on suit, c'est notre alliance relationnelle. L'Église, à un moment donné, s'est dotée d'une alliance relationnelle. En fait, le poster est sur le babillard en arrière. Si vous voulez aller voir là, tous les points qu'on a fait ressortir des Écritures, on a commencé par les Écritures pour dire, OK, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu, quelle attitude qu'il veut qu'on ait entre nous, dans sa famille? Et le premier élément qu'on a vu, c'est l'accueil. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est qu'on veut s'accueillir comme Dieu nous a accueillis. Et on a vu l'exemple de Jésus-Christ. Hein? On a vu l'exemple de Jésus, comment il accueillait les gens indépendamment de quoi? Leur statut social, leur apparence, leur comportement, tout. Hein? Aussi bien dire tout, hein, Linda? C'est ça. C'est plus facile. Parce que Jésus, il regardait quoi? Il regardait au cœur. Puis c'est comme ça qu'il veut qu'on s'accueille aussi en tant que frère et sœur dans sa famille. Le deuxième point, c'était quoi, Rémi? L'humilité. On a vu, c'était quoi l'humilité? L'humilité, c'est quelque chose, c'est juste l'absence de l'orgueil, c'est ça? Non, hein? Ah, c'est bon, je suis content. C'est juste quelque chose de passif. Si tu n'es pas orgueilleux, bien, tu es humble. Non, c'est quelque chose d'actif. C'est volontairement se positionner. Le mot humilité veut dire abaissement. C'est un geste volontaire. Et on a vu l'exemple de Jésus encore une fois. Hein, lui qui était égal à Dieu, il s'est abaissé. Il a pris la forme humaine et il s'est même abaissé plus pour devenir un serviteur. Et un serviteur qui était prêt à aller jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Donc, tout un abaissement, hein? Volontaire. Motivé par l'amour. L'amour. D'abord, l'accueil est motivé par l'amour. La semaine passée, on a vu avec Étienne, est-ce que vous vous rappelez? Comment? La persévérance. Oui, la persévérance. Nous accepterons lorsque notre service ensemble pour Jésus apportera des souffrances à persévérer dans l'amour et être patient les uns envers les autres. C'est ce que Étienne nous a apporté. Et puis, ce n'est pas une question de si on va souffrir, c'est une question de quand. Juste le tasser un petit peu. Super. Bien, merci. Je suis content que vous ayez apprécié mon message. Ah, c'est pour Jonathan. Ah, OK. Ah, c'est vrai, il faut que je sois humble. J'ai pas le choix, là, hein? C'est comme faire la vaisselle, hein, Fernand? On n'a pas le choix après avoir prêché sur l'humilité. OK. Notre verset thème. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Amen! Quel privilège! Hein? Vous rendez-vous compte que vous êtes membres de la famille de Dieu? Wow! C'est incroyable! Membres de la famille de Dieu. Donc, la première section, si on l'a vu, deuxième section. Et dans cette deuxième section, où on parle de relations, il y a deux fils conducteurs que je ramène tout le temps. Premièrement, on se pose la question, comment Dieu agit envers moi? Bon, mais c'est comme ça qu'il veut que je me comporte avec toi. Et comment que j'aimerais qu'on me traite? Bien, c'est comme ça que je devrais te traiter. Hein? Bon, on oublie ça. Non, on n'oublie pas ça. Justement, Jésus, il voyait le cœur et il veut que nous aussi, on voit le cœur de nos frères et sœurs. Et même plus, c'est que la façon qu'on va traiter nos frères et sœurs, c'est la façon que on traite Jésus. Est-ce que je traiterais Jésus comme je te traite? Est-ce que j'y parlerais à Jésus comme je te parle? Hein? OK. Humilité spirituelle, on a vu ça. Patience, persévérance. Bon, ce matin... On va parler de l'édification, et voici ce que l'Alliance relationnelle nous dit. Nous veillerons à ce que les paroles qui sortent de notre bouche apportent le bien, une bénédiction, et contribuent à la croissance spirituelle de nos frères et sœurs. L'édification. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ce matin? C'est la définition biblique et le lien avec la famille. On va identifier quelques fausses conceptions et on va voir comment participer à bâtir l'Église, le temple spirituel de Dieu. Donc, la première chose, c'est l'édification, l'identification biblique, la définition biblique et le lien avec la famille. Tournez avec moi dans vos Bibles ou si vous avez un lecteur ou vos téléphones, Éphésiens 2. Jean, il a lu Éphésiens 2, je pensais qu'il allait continuer dans le passage de ce matin, mais Merci beaucoup, Jean Passant, c'était excellent. Merci. Alors, Éphésiens 2, au verset 19, on vient de citer. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers, des résidents temporaires, vous êtes concitoyens, des membres du peuple de Dieu, vous faites partie de la famille de Dieu. Verset 20, Dieu vous a intégrés à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, ou les apôtres et les prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et, unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Prions. Dieu souverain, Créateur du ciel, de la terre, de la mer, de toute créature physique et spirituelle, de toutes les lois invisibles et immuables qui régissent la nature. Roi suprême, nous sommes ce matin bénis d'être dans ta présence, Père. Père des lumières, de qui nous descend toute grâce excellente, tout don parfait. Nous sommes devant ton trône de grâce ce matin, Père, pour te demander encore cette nourriture spirituelle dont nous avons besoin, cette direction de ton Esprit Saint. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation pour te connaître, Père. Illumine les yeux de notre cœur. Éclaire notre intelligence. Nous repoussons toute autre voie que la tienne, Père. Que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Donc, que signifie l'édification? Le mot grec, c'est oikodomé. Oiko, on a déjà vu, ça veut dire famille. Et domé, ça veut dire toi, dôme. Comme le superdôme, l'astrodôme, plein les dômes là, qu'on a, les grands amphithéâtres, le sport partout aux États-Unis. Dôme, ça veut dire toi. Donc, on met les deux mots ensemble et ça veut dire construire un toit pour ta famille, une maison pour ta famille, bâtir, ériger, monter un édifice. Et dans Éphésiens 2, notre verset thème est verset 19, on voit que nous sommes membres de la famille de Dieu, mais quand il poursuit au verset 20, on voit que cette famille-là est comparé à un édifice, un temple en fait, construit sur le fondement des apôtres et des prophètes dont Jésus-Christ est la pierre angulaire ou principale. C'est quelque chose de merveilleux ici. Ratez pas ça, là, parce qu'on comprend ici que Dieu fait quelque chose de vraiment inouï, de fantastique, c'est-à-dire qu'il construit une maison pour sa famille, mais il construit une maison avec sa famille. Wow! L'Église, là, c'est pas juste une maison pour toi, c'est une maison de toi. Tu fais partie intégrante de cette maison-là. Et Pierre va dire que nous sommes des pierres vivantes et que nous composons chacun une partie de ce temple que Dieu est en train d'ériger. Donc, une maison pour sa famille, mais une maison qui est fabriquée de sa famille. C'est capotant, là. C'est spirituel, c'est fantastique. Quelle sorte de maison que Dieu construit? Bien, c'est un temple. Wow! Donc, non seulement une maison, un abri, une place où ce que tu es accueilli, tu as été intégré. Hein? On a vu deux fois là, le mot. C'est tellement extraordinaire. Dieu vous a intégré à sa famille. Puis il vous a intégré à cette structure qui est en train de se construire, qui est une maison. Mais la maison, elle a quelle forme? Elle a la forme d'un temple. C'est quoi un temple? C'est un endroit où ce que un Dieu habite. Hein? On voit des temples, les temples, c'était pour aller rencontrer. C'est une place de rencontre entre l'humain et un Dieu. Mais ici, ce n'est pas un Dieu, c'est Dieu. Donc, l'Église dont vous faites partie, la famille, c'est un lieu où Dieu habite en esprit et qu'on rencontre Dieu. Wow! Oui, Jean-Claude? Oui. Effectivement, et on va voir ça tout à l'heure. Oui, donc l'Église est une famille, mais cette famille a une fonction. Imaginez que votre famille, là, c'est pas juste une famille, mais elle a une fonction. Elle a un but, elle a une raison d'être. Mais la famille de Dieu, elle a une raison d'être. C'est d'être un temple, un lieu où Dieu habite, où ce qu'on rencontre Dieu. C'est un édifice spirituel et non physique, un lieu où habite qui? L'Esprit de Dieu. Verset 22 ici, dans le chapitre 2. Cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit ou en Esprit. Dieu habite en esprit son Église. Et Pierre va dire, comme j'ai dit, « Et puisque vous êtes aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel. » Édifiez-vous. Donc, Dieu construit sa famille, qui est en même temps un temple de pierres vivantes, qui se construit lui-même par l'intervention de l'Esprit à travers ces mêmes pierres. Donc, Dieu construit, je construis, tu construis cette maison. C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose. Est-ce que tu as pris conscience que Dieu veut t'utiliser pour construire son temple? Que tu as une part à jouer? Dieu construit, je construis, tu construis. Mais quoi viser à construire dans la vie des autres? Parce qu'on construit dans la vie des autres. OK? Qu'est-ce qu'on va viser à construire? C'est une question importante. Hein? Puis je pense que pour répondre à cette question-là, il faut premièrement d'abord s'interroger sur c'est quoi la maturité spirituelle? C'est quoi la maturité spirituelle? Quelle est la définition de la maturité spirituelle selon la Bible? Parce que ce que tu considères comme étant la définition de la maturité spirituelle, bien, c'est ça que tu vas viser à construire. Hein? Pas vrai? Ce que tu considères comme essentiel dans ce domaine, comme étant le centre, le cible à viser, c'est ce à quoi tu vas chercher à construire dans la vie des autres et dans ta propre vie. Alors, c'est quoi la maturité spirituelle? Est-ce la connaissance de la Bible et des doctrines? Plus tu connais la Bible et ses doctrines, plus tu es mature. Qu'est-ce qui se passe dans une église où l'on considère que c'est ça la maturité? Bien, on passe beaucoup, beaucoup de temps à énergie à lire la Bible, à l'étudier, à apprendre ses doctrines, à mémoriser ses versets. Mais on confond l'éducation avec l'édification. L'édification n'est pas la même chose que l'éducation dans le sens de l'instruction. OK? Voici le problème, et je l'ai vécu personnellement. Lorsqu'on définit la maturité spirituelle uniquement comme dépendant de la connaissance, alors les matures peuvent être très connaissants, oui, mais leurs têtes peuvent être remplies de connaissances, alors qu'en même temps, ils sont égoïstes, orgueilleux, centrés sur eux-mêmes. Lorsque le focus est mis entièrement sur la connaissance, les relations demeurent superficielles, se limitant à l'échange de connaissances, d'informations. Exact. Pire, on accorde très peu d'importance à la patience, la persévérance, la bonté, la bienveillance, le pardon, les fruits de l'esprit, le caractère de Christ, quoi. Et puis qu'on vient qu'à ressembler à des poupons avec des grosses têtes sur des tout petits corps. Qu'est-ce qui arrive quand un petit poupon qui n'a pas assez de force dans ses jambes, il a une grosse tête puis il ne peut même pas tenir sa tête, il essaie de marcher? Il va tomber. C'est ça qui se passe. Il va tomber. Dans 1 Corinthiens 8, 1 à 3, Paul déclare: la connaissance enfle, rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Tiens, tiens, édifie, construit. L'amour édifie. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Il va dire: celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Mais celui qui aime Dieu, celui-là est connu de lui. Voyez-vous comment Paul définit la connaissance ici? C'est en relation avec quoi? C'est relationnel. C'est une connaissance intime. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, théorique, théologique. Je ne dis pas que ces choses-là ne sont pas importantes, là. Ces choses-là sont importantes. Mais Paul dit: si tu penses que tu as beaucoup de connaissances, là, ben détrompe-toi. Détrompe-toi parce que tu n'as pas encore connu comme tu dois connaître. Et il parle de connaissances en termes relationnels. Connaître Dieu, c'est d'être en relation avec Dieu, de le connaître intimement, de connaître son cœur, de vraiment être en relation avec ce Dieu qui, puis d'accepter, d'adopter sa façon de voir les choses, sa façon d'aimer, sa façon d'agir. Oui, Lorraine? Oui, c'est ça, c'est la connaissance par expérience. Oui, Martial? C'est le connaître lui, hein, et Jésus-Christ qui l'a envoyé. Effectivement, merci. Excellent. Donc, baser ta spiritualité sur ton grand savoir conduit où? À l'orgueil. Et aussi, malheureusement, va te placer en position vulnérable pour succomber aux tentations de l'ennemi. L'orgueil précède quoi? La chute, nous dit la parole. Puisqu'en t'imaginant mature à cause de tes connaissances, tu ne places que très peu d'importance sur ta vie personnelle. Oui, Jacqueline. C'est ça, exactement. Donc, le danger, c'est qu'en t'imaginant, à cause de ta grande connaissance, que tu es mature, tu négliges les parties importantes de ta vie personnelle, tes émotions, tes désirs secrets, tes réactions face au comportement de ceux qui t'entourent, et tu deviens vulnérable à tomber dans les péchés comme la colère, l'irritation, les querelles, également des péchés, des désirs charnels que tu ne considères pas que ta vie intérieure est importante. Ce qui est important, c'est de connaître la Bible. Oui, la connaissance de la parole est essentielle à la croissance spirituelle. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas essentiel. Mais ce n'est pas la maturité spirituelle. La connaissance de la parole est essentielle à la croissance spirituelle. Mais la connaissance en elle-même ne constitue pas la maturité spirituelle, aussi grande soit-elle. L'amour pour Dieu, oui, soit le moteur. Et l'amour pour les autres également. Hein? Alors, oui, c'est ça. Hein? Exactement. Une trompette qui résonne. Alors, c'est quoi la maturité spirituelle? Est-ce que c'est l'exercice des dons spirituels? Voilà, les dons spirituels. Oui, c'est ça qui est important. Hein? C'est ça qui est important, c'est de trouver son don puis d'exercer son don dans l'Église. Qu'est-ce qui se passe dans une Église où l'on considère la maturité comme étant la possession et l'exercice de certains dons spirituels? C'est pas mauvais, mais est-ce que c'est ça la maturité spirituelle? Bien, on a l'épître de 1 Corinthiens pour nous montrer clairement que non. Clairement que non. Dans le chapitre 12 de 1 Corinthiens, Paul nous fait l'exposition merveilleuse des dons spirituels et de leur fonction dans le corps. Et ils sont importants. Mais malheureusement, étant ce que nous sommes, nous pouvons tomber dans la glorification du don lui-même ou de celui ou de celle qui la possède. Et c'est ce qui est arrivé à Corinthe. Les dons sont donnés, selon la parole, pour l'édification de l'Église, hein, et non pas pour ma gloire personnelle. Et Paul va dire aux Corinthiens, « Celui qui parle en langue étrangère, là, en langue inconnue, ou qui prie en langue inconnue, là, il s'édifie lui-même. » Bon, on va dire, c'est bon, il s'édifie lui-même. Oui, mais c'est pas ça le but. Et c'est pas ça le but. Là, tu es centré sur toi-même. Alors, lorsque le focus est mis entièrement sur l'exercice de son don, le danger est que cela devienne une fin en soi. Si pour toi, la maturité spirituelle, c'est d'exercer ton don, surtout en public, d'une façon éclatante, ça te place encore en position vulnérable par rapport aux attaques de l'ennemi dans ta vie privée. Puisque, ayant exercé ton don de façon satisfaisante ou même spectaculaire, tu peux négliger encore l'importance de la pureté, l'intégrité, la relation intime avec Dieu et avec des frères et sœurs. Regarde ce que j'ai fait, là. Dimanche, waouh! Dimanche, Dieu a fait ci, dimanche, Dieu a fait ça, waouh! Tu vois, si tu penses que c'est ça la spiritualité, exercer ton don, alors tu l'as fait dimanche, mais puis là, le reste de la semaine, tu vis dans ta propre nature humaine. Parce que la maturité, c'est d'exercer ton don spirituel. Oui, l'exercice des dons spirituels est essentiel à la croissance. Puis je pense qu'on ne les exerce pas assez. Puis je pense que la moitié de nous, on ne sait même pas c'est quoi notre don spirituel. Fait que je ne suis pas en train de dénigrer les dons spirituels, là. Au contraire, on a besoin. Mais ce n'est pas ça la fin en soi. Exerce ton don. Édifie les autres. On a beaucoup d'exemples dans la parole de gens qui ont confondu capacité spirituelle avec maturité spirituelle. L'exemple classique, là, c'est Samson. Dieu a donné d'un don une capacité incroyable à Samson pour le bien de son peuple, pour libérer son peuple, hein, d'Israël, de les ennemis. Il a fait des exploits extraordinaires, mais il pensait que c'était ça, être mature spirituel. Puis dans sa vie privée, il a permis plein de choses à prendre place. Il a fait des compromis. Il a été en relation avec des femmes païennes. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Ça a fini par le rattraper à la fin. Puis, ça a été un échec, sa vie. Dans le fond, ça a été un échec spirituel. Mais malgré la grande capacité que Dieu lui avait donnée. C'est quoi la maturité spirituelle? Est-ce que c'est une conduite parfaite, conforme à la parole? Ah! Ouais! C'est ça la maturité spirituelle. C'est-tu ça? Qu'est-ce qui se passe si j'ai cette définition-là de la maturité spirituelle dans mon esprit? Comment je vais chercher à édifier les autres? Oui, ça ne sera pas trop édifiant, laissez-moi vous le dire. Je vais tenter de les forcer à se conformer à un comportement biblique. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Un chrétien, ça ne fait pas ça! Voyons! Tu vas leur mettre la pression à se conformer, même s'ils ne comprennent pas la raison. À la limite, tu peux aller très loin et jusqu'à t'ingérer dans leurs décisions les plus personnelles. Et dans cette optique-là, il n'y a pas de place pour des convictions différentes dans l'application de la vérité des Écritures. Ben non. Tout le monde doit penser de la même façon. Tout le monde doit agir de la même façon. Tout le monde doit être conforme. C'est ça la maturité spirituelle? Si pour toi le comportement correct, dite chrétienne, égale la maturité spirituelle, alors qu'est-ce qui se passe? Tu te places encore en position vulnérable d'attaque spirituelle, en danger de chute, parce que l'orgueil n'est pas loin. Parce que toi, tu as réussi. Moi, j'ai réussi. Regarde l'autre, comment ça se fait qu'il boite et il ne suit pas, là? Regarde ce qu'il fait. Voyons! Tu crois que toi, tu es arrivé. Et puis toi, ton comportement est conforme. Alors, ça conduit à l'hypocrisie. Puisque tout l'emphase est mis sur l'extérieur, mais à l'intérieur, habite toutes sortes de péchés fétiches. C'est justement le cas des pharisiens, pas vrai? Le pharisien, dans la parabole de Jésus, qui priait devant tout le monde, il remerciait Dieu, « Je ne suis pas comme les autres, moi je fais ci, je fais ça, je ne fais pas ça. Hein? » Jésus a dit, « Sa prière n'a pas monté plus haut que le plafond. » Parce que tout ça était centré sur lui, sur ce qu'il faisait ou ne faisait pas, sur son comportement. Jésus a dit aux pharisiens qui ressemblaient à ces beaux tombeaux, oui, tout blanchi d'extérieur, mais antérieur, la corruption, la putréfaction. Ouf! Pour ceux qui sont nouveaux dans cette église ici, on a vécu ça ici. On a vécu comme ça ici, malheureusement. C'est vrai. Moi, le premier. On est tombé dans cette erreur pendant plusieurs années. Mais par la grâce de Dieu, il nous l'a révélé. Et on s'est humilié devant lui, devant l'Église, les anciens, pour demander pardon et se réaligner avec son cœur à lui. Donc, c'est quoi la maturité spirituelle? Si ce n'est pas la connaissance, en passant, la connaissance, je le dis encore, c'est très important. Moi, j'essaie à tous les ans de traverser la Bible. Ça fait au-dessus de 20 ans. J'en connais plusieurs ici. C'est important, la connaissance. Mais ce n'est pas ça, la maturité, à elle seule. OK. Donc, ça ressemble un petit peu, quand j'étais jeune, j'allais dans un camp chrétien, puis on m'a appris à tirer de la carabine comme sport. Puis, ils nous mettaient souvent des cibles comme ça. Un au centre, puis quatre autour. Là, l'instructeur, il dit, vise le centre. Fait que tu vises, puis là, tu ramènes ta feuille. Il dit, OK, allez chercher vos feuilles. Va chercher ta feuille. Puis là, il regarde ta feuille, puis tu as visé la cible en haut à droite. Tu as rentré que 5 coups dans la cible. Hey, c'est bon? C'est bon, hein? Non, c'est pas bon. Je t'ai dit de viser la cible au centre. Ah! Ah! C'est un peu comme ça, la maturité chrétienne. Hein? C'est la connaissance. Non, c'est le comportement. Non, c'est les dons spirituels. Ou bien, c'est d'autres choses. C'est le service. C'est quoi la maturité spirituelle? Qu'est-ce que je dois bâtir? Qu'est-ce que je dois chercher à bâtir dans la vie de mes frères et sœurs, dans la famille de Dieu? Lorsqu'on construit une maison, qu'est-ce qui va donner la forme à la maison, premièrement? C'est les fondations, hein? C'est le fondement. C'est le fondement. Dans notre passage dans Éphésiens 2, qu'est-ce qui nous est dit? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, ou des apôtres, ces prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, ce fondement, ce qui confère la forme à ce temple, c'est quoi? C'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Paul déclare dans 1 Corinthiens 3, 9 à 12, « Car nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous, vous êtes le champ qu'il cultive, ou encore vous êtes l'édifice qu'il construit. » Tiens, tiens. « Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement. Seulement que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. » Donc, le fondement, c'est Jésus-Christ. Donc, l'édifice va ressembler à Jésus-Christ. On doit viser à construire quoi? La personne de Jésus-Christ dans nos propres vies, dans la vie de nos frères et sœurs. La personne, le caractère de Jésus-Christ. Tu peux être bourré de connaissances, puis tu ne ressembles pas à Christ pantoute, là. Tu es arrogant, colérique, tu n'es pas patient, tu n'es pas gracieux. Tu ne ressembles pas à Jésus-Christ. Pardon, ma sœur? Orgueilleux, oui, c'est ça. Puis Paul dit, Dieu en a décidé des fondements. Faites attention de ne pas vous trouver à construire à côté des fondements. Ce ne sera pas d'avantage, là. Ce ne sera pas à ton avantage. Puis il dit, fais attention comment tu construis sur ce fondement-là, parce que ça peut tout passer en feu, ça peut tout évaporer en boucane. Il faut faire attention quels matériaux qu'on va utiliser. Paul déclare aux chrétiens dans la région de la Galatie, il dit, « Vous êtes mes enfants pour qui j'éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement. » Jusqu'à quoi? Jusqu'à le Christ soit formé en vous. Oh, wow! Jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Ce que les gens peuvent regarder et dire, hey, il ressemble, ou elle ressemble vraiment à Jésus, elle, hein? C'est merveilleux. Regarde ce que Dieu a fait. Regarde ce que Dieu a fait dans sa vie. Les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. C'est ça que Paul visait. Un autre passage, c'est dans Éphésiens 4, versets 11 à 13. C'est lui, le Christ, qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu, ou les saints, soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction, l'édification du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, maturité, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Wow! Ça semble de plus en plus clair. Qu'est-ce qu'on devrait chercher à bâtir dans nos vies puis dans la vie? Comment je peux contribuer à aider ma sœur, à aider mon frère à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ? C'est ça le plus essentiel. C'est ça l'essentiel. C'est vraiment ça l'essentiel. Ressembler à Jésus. Je l'ai dit, je vais le répéter. Si tu as d'autres buts pour ta vie, là, que de ressembler à Jésus, tu es à côté de la traque. Puis si c'est ça ton but, là, est-ce que ça se reflète dans ta vie de prière? Est-ce que tu demandes à Jésus, à Dieu, tous les jours, « Je veux ressembler à Jésus. » Je veux ressembler à Jésus. Transforme-moi à la ressemblance de Jésus. C'est la chose la plus merveilleuse de ressembler à Jésus. J'ai goûté un petit peu, là, un petit peu, puis c'est merveilleux, mais j'en veux plus. Je veux ressembler à Jésus. Wow, là, tu t'enlignes avec le désir du Père. Là, tu es enligné avec le désir du Père. Puis est-ce que tu pries ça pour tes frères et sœurs, comme Paul? Seigneur, transforme-le, transforme-la à la ressemblance de Jésus. Ici, on voit que les dons sont extrêmement importants. Il y a des dons équipeurs, les apôtres, prophètes, enseignants, évangélistes, ça c'est des dons équipeurs. Ils sont là pour équiper les autres à édifier, à s'édifier. Mais ils ont besoin d'être édifiés aussi, là. C'est pour ça que tantôt j'ai dit, j'ai besoin, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas sans vous. J'ai besoin. On a tous besoin les uns des autres. Ici, là, c'est pas question d'arriver seul. Hein? Il dit quoi? Nous parviendrons tous ensemble. Ensemble. Ensemble à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Ensemble. Tu as des choses que j'ai pas, moi. Tu as des dons que j'ai pas. Tu as eu des révélations que j'ai pas eues. Tu as eu des expériences avec Dieu que j'ai pas eues. Tu es une pierre, chaque pierre est unique et chaque pierre a sa place dans la mur, dans le mur, dans la muraille que Dieu construit. Puis ça peut pas être toutes des pierres comme identiques là. C'est pas ça. Dieu est construit avec des pierres de tailles différentes, de couleurs différentes, de dimensions différentes. C'est merveilleux. C'est extraordinaire. Puis le but, c'est qu'on arrive à ressembler à Christ, à la stature parfaite de Christ, nous dit la version second. Ou une autre version, la Tob, nous dit à l'état d'adulte, à la taille du Christ dans sa plénitude. Wow! Ressembler à Christ dans toute sa plénitude, là. Wow! C'est impossible sans l'intervention du Saint-Esprit, la parole de Dieu et l'Église. Et l'Église, c'est la personne de Christ qui est la maturité. Connaître Christ intimement, pas simplement des faits sur lui, mais lui-même, dans le but de lui ressembler. Entretenir une relation intime avec lui, le connaître, l'expérimenter. Combien laisses-tu Jésus entrer vraiment dans ton intimité? Lui dis-tu ce que tu vis, ce que tu ressens, ce qui se passe? Le laisses-tu vraiment te parler? Cherches-tu réellement à le connaître intimement dans le but de le ressembler? Quand tu lis la parole, c'est pour acquérir des connaissances? Ou pour rencontrer Jésus-Christ. Parce que c'est ça la maturité, c'est le caractère de Christ, c'est son esprit qui prend de plus en plus place dans ton cœur, dans ta tête, dans tes pensées, et évidemment, ça va se refléter dans tes paroles, dans tes actions et dans tes réactions. On ne peut pas y arriver seul. Bon, comment maintenant je peux participer à ça? Comment participer à bâtir l'Église? Bien, par nos paroles. Dans Éphésiens 4, au verset 15, on voit ce que Paul dit ici. Au contraire, en exprimant... Bon, on va revenir à verset 13. « Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ, ou du Christ dans toute sa plénitude. De cette manière, verset 14, nous ne serons plus des petits-enfants ballottés comme des barques par des vagues, emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. Donc, comment je peux t'édifier? Comment tu peux m'édifier? C'est en exprimant la vérité dans l'amour. Comme Jésus. Merci. Comme Jésus. Exprimant la vérité dans l'amour. Donc, par nos paroles. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes ses articulations, toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. C'est par nos paroles en premier lieu. Il nous dit que nos paroles ont une puissance pour construire le Christ dans la vie de nos frères et sœurs, si on dit la vérité avec amour. Si c'est juste la vérité dans le but de corriger quelqu'un ou de le remettre à sa place ou parce que tu te trouves tannant ou parce qu'il t'a offusqué, ce n'est pas édifiant. Tu as aussi bien resté silencieux. Mais édifier, c'est dire la vérité. Avec l'amour, ça veut dire les intérêts de la personne à cœur. Oh, ça c'est différent là. Dire la vérité, mais avec amour, ça veut dire pour le bien de l'autre. Ça veut dire si tu m'as fait quelque chose, puis là je suis choqué parce que c'est pas correct, ben il faut que j'interroge le Seigneur, est-ce que j'ai la bonne motivation? C'est quoi ma motivation? Si c'est par colère, c'est par irritation, c'est par vengeance, rassis-toi, reste là jusqu'à temps que Dieu change ton cœur. Parce que ça ne donnera rien. Exprimant la vérité dans l'amour, c'est ça qui construit la vérité dans l'amour. Nous grandirons à tous égards. Donc c'est par nos paroles. Verset 29, qu'est-ce qu'il dit au verset 29? Éphésiens 4. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Du bien. Aider les autres à quoi? À grandir. Version seconde, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Le vrai mot en grec, c'est pourri. C'est pourri. La pourriture, ça crée quoi, la pourriture? Ça contamine, ça crée encore d'autres pourritures. Ça corrompt. Ne laissez aucune parole pourrie, ou pourrite, on dirait, sortir de votre bouche, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. C'est quoi une bonne parole? C'est des paroles empreintes de bonté qui répondent à un besoin et qui servent à l'édification, qui aident les autres à grandir, qui communiquent une grâce. Donc, ça veut dire que quand on se parle là, dans la famille de Dieu, là, je pense qu'il faudrait qu'on interroge le Seigneur plus souvent avant de dire quelque chose. Hein? Est-ce que ça va communiquer une grâce? Est-ce que c'est rempli de bonté? Est-ce que ça va aider la personne à grandir? Quelles sont les motivations de mon cœur? Hein? Nos paroles ici, on voit que nos paroles ont une puissance destructrice ou bien constructrice, blessante ou bienfaisante. Tu pensais-tu que vraiment tes paroles avaient autant de puissance? Mais oui, tes paroles ont autant de puissance, c'est ce qu'il nous dit ici. Qu'elles communiquent une bénédiction, une grâce, quelque chose qui va aider l'autre à grandir. Wow! Est-ce que tu demandes à Dieu de te donner des paroles bienfaisantes, constructrice pour tes frères et sœurs? Une autre bonne requête. Puis c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, qu'est-ce qui occupe mon cœur? Qu'est-ce qui préoccupe mon cœur? Quelles sont les motivations de mon cœur? Convaincre les autres là, de ta position sur telle ou telle conviction, est-ce que c'est vraiment ça? Les édifier? Est-ce que chercher à avoir raison, c'est centré sur le bien de l'autre ou c'est plutôt centré sur toi-même? On a vu quand on a parlé de l'humilité que si j'ai tendance à être irritable, si j'ai tendance à être en colère, si je réagis à chaque fois que quelqu'un a une opinion différente de la mienne, là, ça, la pression monte, là, puis là, non, non, c'est pas ça. OK. C'est pas ça. Bon. Moi, à un moment donné, il a fallu que je me repente parce que le Seigneur m'a montré que assez souvent, là, c'était ça. Je prêchais pour avoir raison. Ce n'est pas les bonnes motivations. Donc, comment bâtir l'Église? Le temps passe vite, on va passer aux autres. L'exercice de ton don, tes dons, on l'a vu, là. Les dons, c'est important, c'est juste que ça, faut pas que ça devienne le but. Il faut pas faire l'amalgame entre l'exercice du don et la maturité. Le don, c'est quelque chose que tu es donné, mais c'est pour le bien des autres. Oui, tu peux grandir dans l'exercice de ton don. Oui, absolument. Et c'est merveilleux. Mais c'est dans le but de grandir à la ressemblance de Christ. À la ressemblance de Christ. Ensuite, on pourrait faire toute une série sur l'édification, hein, c'est sûr. Ensuite, par nos relations. Je me suis posé la question, Jésus, comment est-ce qu'il a fait, lui, pour édifier ses disciples? Oui. Il s'abaissait. Il leur lavait les pieds. Il était en relation. Il était avec eux. Il était toujours avec eux. Il entretenait des relations avec eux. De sorte que la personne de Jésus a commencé à vraiment les influencer, à vraiment avoir un impact dans leur vie, sa façon d'être. Sa façon de penser, sa façon d'agir, sa façon de réagir, sa façon de prier, d'être en relation avec Dieu, tout ça, là, c'était sa personne qui édifiait ses disciples en entretenant des relations. Frères et sœurs, si on se voit juste le dimanche, là, on va-tu vraiment pouvoir s'édifier les uns les autres? Je sais qu'on vit une situation particulière ici parce qu'on est éloigné, on est dispersé un peu sur le territoire. C'est pas facile. C'est vrai, c'est pas facile. C'est pas possible d'être en relation avec tout le monde non plus. C'est impossible. Je suis désolé moi-même, je suis désolé de ne pas pouvoir être en relation avec tout le monde. Mais regardez autour de vous, là. Quelles sont les pierres que Dieu a collées sur vous, là? Dans la construction de sa bâtisse. Hein? Bien, entretenez des bonnes relations. Allez-y. J'ai envie de dire, bottez-vous derrière un petit peu, puis sortez de la maison. Allez les voir. Appelez. Bon, je l'ai dit. C'est ça. Mais Jésus, c'est ça. C'est l'influence de sa personne. Pratiquement tout le monde ici était là la semaine passée quand c'était Étienne là, qui était là. Quand Étienne est venu, là, j'ai dit au gars après, puis je l'ai dit plusieurs fois, j'ai dit juste sa façon d'être, là, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Étienne, être avec lui, là, ça me faisait du bien. Wow! Hein? Oui! Oui! C'est sa façon d'être. Parce que moi, j'étais un gars sous pression, là. Moi, j'étais un gars, il faut performer, là. J'étais un esclave à ça. Pas lui. Ben là, ça m'aide. Puis son amour pour moi, là, ça dépendait pas de mes performances. Fait que ça m'édifiait, ça m'amenait à grandir dans la foi, dans la ressemblance de Christ. Et puis, par la prière, finalement, on l'a vu avec l'exemple de Paul. Hein? Puis, tournez dans Éphésiens 3, parce qu'il y a une prière, que cette prière-là, je la dis, je la prie à tous les matins. Cette prière-là. Je l'ai-tu marqué? Oui. Mais allons-y dans Éphésiens 3. Et au verset 14. Et Jean-Claude a fait mention de ça, il a fait allusion à ça tantôt. C'est pourquoi, ou à cause de cela, ben je vais lire dans le second avant, puis on va le relire dans l'autre version. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. OK, on parle de la famille. Donc, devant le Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom. Parce que, comme Jean-Claude a dit, le mot en grec, pater veut dire père, et patria, ça veut dire famille, ça veut dire découlant du père. Et sur la terre, afin qu'il vous donne, le Père, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, dans l'être intérieur, afin que quoi? Le Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, dans son amour. Que vous puissiez comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu, à celui qui peut faire. Donc, c'est impossible, oui, mais lui, il peut faire ça, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, siècles des siècles. Amen. Amen. Souvent, ce verset-là, le verset 20, est utilisé à toute sauce là, par les chrétiens. Il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Ouais, puis on l'applique à toute sauce. Mais non, dans le contexte, là, c'est d'être de plus en plus comme Christ. Que Christ habite ton cœur de plus en plus. Que tu saisisses son amour. Ça, c'est le premier mot ici, le connaître, verset 19. Et connaître, comprendre, verset 18, afin que vous puissiez comprendre. Ça, c'est avec ta tête. Saisir. Je veux saisir davantage l'amour de Christ pour moi. OK, parfait. Je le saisis. Mais le verset 19, et connaître l'amour de Christ, ça, c'est l'expérimenter, c'est un autre mot. C'est connaître par expérience. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens qui se limitent à saisir l'amour de Christ, mais ils ne l'expérimentent pas. Puis, je prie ce verset-là pour moi-même à chaque matin. Parce que je considère que c'est vraiment, vraiment, vraiment ça le plus important. Que Christ habite dans mon cœur, que je sois enraciné, fondé dans son amour. Et c'est ce que Paul priait pour les chrétiens à Éphèse, et c'est ce que je prie pour vous aussi. Et prions ça pour les uns les autres. Mais premièrement, prie ça pour toi. Premièrement, prie ça pour toi. C'est fondamental. C'est fondamental parce que la façon que tu conçois la maturité chrétienne, ça va affecter ta vie spirituelle, puis ça va affecter la façon dont tu vas essayer de bâtir aussi les frères et sœurs, bâtir l'Église. Donc, on termine par cette prière merveilleuse de Paul. Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné Il parle d'une plante hein, qui jette ses racines où? Dans l'amour de Christ. Et fondée, ça c'est l'image d'une construction encore. Fondation, fondée dans l'amour. Que vous puissiez comprendre, saisir avec tous les saints. Et encore là, hein, il dit, tu ne peux pas faire ça seul. Avec tous les saints. Si tu restes dans ton chez vous, sur le sofa, tu ne le comprendras pas et tu ne l'expérimenteras pas comme Dieu veut que tu l'expérimentes. Avec tous les saints, quelles sont les dimensions et connaître l'expérimenté qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la toute plénitude de Dieu. Le point capital de ce que le Seigneur m'a donné de vous dire ce matin, c'est que l'édification, Dieu m'appelle à participer, à édifier, à bâtir sa famille en visant ce que Christ soit formé en eux. Prions. Bien Seigneur, merci pour ta sainte parole qui nous a instruits ce matin, pour ton esprit qui nous a conduits dans ta vérité, Seigneur. Oui, tu as répondu à notre prière du début. Tu nous as éclairés. Tu as ouvert les yeux de notre intelligence pour saisir ta vérité. Seigneur, quelle joie, quel privilège de connaître, de te connaître, d'être connu de toi. Et on veut te connaître davantage, Seigneur. Oui, Seigneur, viens faire cette œuvre en nous, que le Christ habite de plus en plus dans nos cœurs, qu'on soit de plus en plus enraciné, fondé dans son amour. Et rempli de toi, rempli jusqu'au bord de toi. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen.